Fréquence Mistral avait reçu Émilie pour le Glub, qui nous avait présenté donc le collectif qui se mobilise contre la Airbnbisation de nos villes. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'organisation d'un événement à la Carline. Émilie, peux-tu nous dire un mot sur la soirée de ce soir ?
Eh bien, ce soir, le Glub, en partenariat avec la Carline, organise une soirée autour de l'ouvrage du Taudis ou Airbnb, Petite histoire des luttes urbaines à Marseille, et écrit par Victor Collet. Le livre est paru aux éditions Agone. Ben, on est ravis d'accueillir Victor à Fort-Calquier. La soirée se passera en deux temps, donc une présentation de l'ouvrage, et puis dans un deuxième temps à la salle Pierre-Michel, un repas partagé avec d'autres collectifs qui seront présents. Donc, il y a un collectif qui vient de Lourmarin et qui se fait face à des problèmes de surtourisme dans la commune de Lourmarin. Et on a également des personnes de la CAG, qui est la coordination des actions anti-gentrification de Marseille.
Bonjour Victor Collet, est-ce que c'est votre première fois à Fort-Calquier ?
En tant qu'auteur, ouais. Sinon, je me suis déjà baladé ici et on m'a déjà parlé du surtourisme, donc je suis super content aussi de venir pour cette raison et avec un peu plus de matière et avec ce livre pour retracer un petit peu les 5 années un petit peu folles qui viennent de s'écouler quand même à Marseille, où on est quand même passé de... Du coup, des effondrements de la rue d'Aubagne et de la grosse centralité du thème de l'insalubrité, du mal-logement sous toutes ses formes, comme la capitale de l'insalubrité, comme elle a été appelée après les effondrements, la connaît, ces 40 000 logements potentiellement frappés d'insalubrité, et en quelques années, ce remplacement ou cette juxtaposition de cette insalubrité massive qui touche 1/8 des Marseillais. Dans certains quartiers du centre, un surtourisme de masse aussi qui transforme les bâtiments fermés pendant 3 ans, d'autres un peu moins, en habitat non plus vraiment partagé, mais en habitat destiné exclusivement aux touristes de passage.
Effectivement, c'est un problème donc, dans une région en PACA qui est extrêmement touristique. C'est un problème qui est aussi pour nos petites villes et villages aux alentours entre le Verdon et le Luberon qu'on rencontre. Quel va être l'objet de notre intervention ce soir, succinctement ?
C'est vraiment revenir sur ces 5 années quand même, parce que le projet, c'était justement pas de pencher uniquement sur l'actu, qui est celle vraiment très forte à Marseille, des réglementations, du contrôle des meublés de saison et du surtourisme en ce moment qui vraiment détruit certains quartiers qui l'étaient déjà beaucoup par l'insalubrité, hein, comme celui notamment de Noailles, où l'évitement du permis de louer, il a été très vite compris dès 2019, dès un an après les effondrements, par beaucoup d'anciens marchands de sommeil qui reconvertissent tout ça en Airbnb, en meublé de saison, parce que ça évite de passer par les contrôles de la location pour éviter l'insalubrité qui a conduit au drame. L'objet du bouquin, c'était aussi de revenir, c'est 4 chapitres quand même centrés sur l'avant, on va dire, 2022, 2023 et la période actuelle, mais 4 gros chapitres qui sont sur ce trauma qui a hanté un peu les Marseillais pendant des années, cette insalubrité qui est toujours persistante et surtout ce qui se passe dans la municipalité de Marseille et dans les collectifs de lutte toutes ces années, avec d'un côté on parlera forcément des logements privés, de l'habitat dégradé, de comment ça devient ou pas une manne et un effet d'aubaine avec les effondrements et le confinement conjugué. Ça, c'est un autre événement quand même très imprévu, haute crise dans la crise, qui a participé à tout ce boom spéculatif qu'on voit un peu partout dans la région et un peu partout en France et même en Europe. Passer aussi de l'autre côté à rénovation publique, rénovation urbaine, c'est quoi les politiques municipales qui freinent ou au contraire qui favorisent et accélèrent la tendance depuis, et notamment avec ce remplacement du regretté Gaudin, qui nous a quittés malheureusement, bien tristement, la semaine passée, et qui reste là où il est, et tant mieux pour lui.
Question d'insalubrité à Marseille, c'est malgré justement le changement de municipalité, ça n'évolue pas ?
Alors on parle d'un sujet qui, je l'ai dit, il est massif, il concerne 1/8 des Marseillais. On ne résout pas le problème de l'insalubrité en quelques années, ni du mal-logement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui stupéfient un petit peu dans le remplacement, et notamment la mise à pied de certains directeurs ou sous-directeurs du service des périls qui commençaient justement suite à la catastrophe, recrutés par l'ancienne mandature pour sauver un peu les meubles après avoir été bien trempés dans tout le scandale, et qui sont mis à pied par le printemps marseillais, alors qu'il y avait une bascule qui commençait un petit peu à transformer toute cette politique municipale qui avait tendance sous Gaudin à faire payer les habitants en les évacuant systématiquement juste après les effondrements, et donc à faire payer en fait à ceux qui sont victimes de l'insalubrité sa production, à commencer à faire rénover, faire payer pour des vrais travaux d'entretien ceux qui la produisent, donc plutôt les bailleurs ou les promoteurs récalcitrants qui se servaient un petit peu jusque-là des collusions politiques, qui se servaient d'un laisser-faire dans la municipalité assez évident sur toutes ces questions. Donc oui, il y a une lutte centrale depuis contre les marchands de sommeil, mais qui est quand même très réduite depuis à suivre les péripéties un peu judiciaires de quelques-uns, tout en laissant une grande partie de l'insalubrité se perpétuer. Et surtout, en parallèle, là où il y a vraiment une dimension un peu, c'est le double effet qui se coule de l'effondrement et du confinement conjugué, c'est derrière l'insalubrité persistante, l'accélération très forte de la spéculation immobilière, de l'arrivée du tourisme de masse et donc aussi d'une autre forme de mal-logement qui vient se surajouter sur cette insalubrité, qui est celle de tous ces gens qui sont complètement bloqués dans leur logement maintenant, il n'y a plus d'offres disponibles nulle part, donc ils acceptent aussi parfois des formes d'insalubrité super crasses parce que juste ils ont peur de plus jamais retrouver dans le quartier, plus jamais retrouver, sauf à aller très très loin, là où on repousse évidemment en permanence les personnes dans les centres-villes qui sont encore populaires comme celui de Marseille, il n'y en a plus beaucoup dans les grandes villes de France. On a aussi cette nouvelle forme de mal-logement accentuée, accéléré par le surtourisme qui vient se juxtaposer avec l'insalubrité. Et là, par contre, la mairie, elle a vraiment du mal à considérer que certains qui prennent 30 logements, 30 appartements, placent tout en Airbnb, font disparaître dans des quartiers des pans entiers des gens qui y habitent, c'est aussi des gens qui fonctionnent finalement comme les marchands de sommeil à l'ancienne, un peu différemment, un petit peu en toute tranquillité, en toute légalité, pas toujours d'ailleurs, en découpant les appartements, en rognant sur certains entretiens, tablant uniquement sur la spéculation et la rentabilité, comme disent certains des annonceurs qui ont des milliers de followers sur Internet, et qui ont une pratique juste celle d'un marchand de sommeil, mais à taille mondiale, quoi, qui est celui des Airbnb.
Maintenant, en agence immobilière, c'est un argument de vente que de dire que ce serait un bon investissement pour Airbnb. On le remarque de plus en plus. Tant il y a eu de la régulation de la part du gouvernement. C'est vrai qu'au début, le juridique finit toujours par suivre les pratiques et il peut pas trop l'anticiper. Paris, il faut enregistrer théoriquement son annonce si on est sur Airbnb, il faut l'immatriculer en gros. Ces limites juridiques, aujourd'hui, elles sont insuffisantes, j'imagine. Est-ce que c'est déjà une bonne chose?
On est dans la capitale de l'insalubrité où les marchands de sommeil, ils ont appris à contourner les règles en permanence pour pouvoir soutirer des loyers exorbitants à des ménages qui sont captifs du marché. On est dans des quartiers à Noailles où il y a 4% de logement social pour une population éligible à 85% à du logement social. Donc mécaniquement, les gens ils sont à la merci de propriétaires qui savent très bien qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ne peuvent pas se loger ailleurs et qui ont laissé se dégrader sans faire les entretiens, qui ont extorqué des prix exorbitants pour la location. Donc on peut se douter, dans la capitale de l'insalubrité, que quand en fait on met en place quelques petites réglementations du style numéro d'enregistrement, obligation, changement d'usage, donc le passage d'un usage dit de longue durée dans la location à un usage dit commercial pour le mettre en meublé de saison et obtenir ses 71% d'abattement fiscal. Donc ça, c'est ce qui a été rogné par la proposition de loi qui est en train de passer au Sénat, etc. Qu'on passe aussi des règles plus contraignantes, comme en 2022, de la compensation, c'est-à-dire au bout d'une deuxième résidence secondaire placée en Airbnb, on doit compenser avec du logement longue durée qu'on doit trouver ou construire. Donc on doit transformer du commerce en logement longue durée sur une surface équivalente où on doit la construire, donc ça c'est beaucoup plus contraignant, mais on aurait pu se douter que les gens y passent à côté des contrôles et que la réglementation ça suffit pas. C'est exactement ce qui se passe quand en 2019 le permis de louer il évite les meublés de saison et que comme par hasard on a des gens comme par exemple la maison Noailles, Nadia Cansou et Jules Repos qui se mettent à mettre plein de logements rue Château-Redon, Courlieutot dans le quartier de Noailles, juste à côté des immeubles effondrés en Airbnb petit à petit, juste pour spéculer. On aurait pu se douter que effectivement il y a des personnes quand ils voient que le prix du mètre carré à Marseille juste après le confinement et la ruée touristique sur Marseille, ils voient que le prix du mètre carré à Marseille c'est un peu celui qui est équivalent à Aubervilliers, l'eldo touristique, il va vite conduire à spéculer sur certains logements. Et là où il y a un vrai problème encore dans les réglementations et les contrôles, d'ailleurs ils en rigolent sur les plateformes de Airbnb France, ils disent à Marseille, il y a un contrôleur pour 5000 annonces, ils sont complètement sur la question des marchands de sommeil et de l'insalubrité, donc vous pouvez y aller, que vous respectiez ou pas la réglementation, personne ne viendra vous contrôler. Donc c'est vrai que ça a un tout petit peu sévi. Après, il y a une autre vraie question qui est posée dans le bouquin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec justement cette possibilité, même si on revient à des abattements fiscaux, on va dire, comme ceux du logement et de la location ordinaire, avec le fait qu'en étant à une moyenne de 115 euros à la nuit aujourd'hui en Airbnb en moyenne dans le centre de Marseille, dans une ville où les loyers étaient très bas, très peu chers, population très précaire, immigrés, 40% des locataires sous le seuil de pauvreté. Combien de temps on va encore rester en se disant que des propriétaires qui ont vu un petit peu l'appât du gain et l'effet d'aubaine vont se passer d'une ressource qui leur permet de faire 5, 10, 15 fois avec Airbnb, même avec des abattements fiscaux non records, ce qu'ils faisaient avec des populations relativement insolvables. Donc c'est une vraie aussi question à la fin sur la disparition des habitants dans les centres-villes, la disparition, la volonté aussi de se passer des habitants, et pas que dans les centres-villes, dans certaines campagnes, dans des petites villes où, avec des résidences secondaires, on peut très facilement se passer aussi de tout lien humain, toute possibilité avec tous ces fameux boîtiers à clés, ces boîtes connectées, ces appartements où on n'a plus besoin juste d'intermédiaires, et se faire 2, 3, 10 fois ce qu'on se faisait avec de la location ordinaire, même l'été.
Marseille, une situation particulière, enfin Marseille c'est une exception en France sur tout ce qu'on a pu évoquer. Il y a aussi une tradition un peu d'être toujours contestataire, de détourner les règles à Marseille quand même. Bon, votre livre n'est pas centré sur l'actualité, mais on ne peut pas se passer de parler des JO aujourd'hui.
J'ai pas bien saisi s'il y a une vraie effectivement volonté de se passer ou de contourner les règles à Marseille, mais en tout cas parmi les spéculateurs qui ont flairé le bon filon après le confinement en particulier, on a aussi plein de gens qui ne sont pas de Marseille par exemple, et qui ont compris par contre que dans la ville néolibérale laissée par Godin, où c'était vraiment l'éthique du laisser-faire et donc du laisser surtout effondrer la ville populaire et laisser à l'abandon des quartiers entiers, et bien choyer par contre ces petits quartiers sud où on avait sa clientèle électorale, ça il y en a qui l'ont compris. Et donc ils ont compris que c'était une ville où les réglementations Airbnb par exemple, elles étaient les dernières à passer en France, et ça c'est vrai que le printemps marseillais, à partir de l'été 2022, il en prend conscience, mais il en prend conscience à un moment où la frénésie elle est déjà en cours de route. Mais donc on a aussi plein de gens, comme par exemple Florent Richard, qui est un gars qui vient du bord de Bordeaux, qui dit « Bon, mais Paris, c'est plus de la renta, c'est du patrimoine là-bas, Bordeaux c'est pareil, alors que Marseille, ça propose de la renta. » Sous-entendu, le prix du mètre carré et l'écart avec ce que je peux me faire en Airbnb en rénovant vite fait et en plaçant tout ça sur la plateforme de location saisonnière, ça va faire de la vraie rentabilité. Ça, il y en a un paquet qui le font, et qui ne respectent aucune des réglementations parce qu'ils savent que derrière la réglementation se cache le contrôle. Et c'est là que les collectifs, effectivement, et toute cette atmosphère un petit peu anti-JO, anti-spéculatrice, bref, garder quand même un centre-ville accessible et partagé, elle a un effet. Puisque par exemple, la brigade de contrôle, elle a été doublée dans ses effectifs à l'automne 2023, quand il y a eu des actions un peu plus punchy qui ont été menées par des collectifs de centre-ville qui ont organisé un kidnapping de boîte à clés qui a été rendu dans une valise à roulettes qui a été déposée devant la municipalité de Marseille avec un communiqué envoyé à la presse pour dire si vous contrôlez pas réellement le Airbnb et qu'on peut plus se loger dans notre propre ville, alors on sera obligé de, évidemment, détruire tous ces boîtiers à clé, mais aussi jeter les touristes au Vieux-Port, balancer le petit train en Méditerranée, etc. etc. Avec un côté toujours un petit peu rigolo, mais qui a conduit, deux jours plus tard, le maire adjoint Patrick Amico à doubler les effectifs de la brigade de contrôle des Airbnb.
Donc aujourd'hui, quels sont les leviers ? D'une part, informer les populations, documenter... faire connaître, ça c'est ce que vous faites déjà, ceux et celles qui souhaitent se mobiliser, donc il y a ces collectifs qu'on a mentionnés.
L'avantage d'Airbnb, c'est que c'est un ennemi qui est quand même relativement facile à identifier, même si l'opacité de la plateforme, elle permet à plein de gens justement de se faire passer pour des petits propriétaires occupants sympas qui grattent un peu d'argent pour payer leur fin de mois avec un coin de canapé en Airbnb, ce qui est en fait une communication qui a quand même fait long feu. Maintenant, on n'est plus du tout sur cet ordre de grandeur, c'est-à-dire 50-60% des gens qui spéculent là-dedans sont des multipropriétaires. Et en fait, la réalité, c'est que du coup, on a un éventail très large de possibilités aussi de s'opposer et de freiner la mécanique. Il y a le fait de rendre visible en fait cette opacité, un petit peu comme hier, on rendait visible les élus indignes qui avaient participé à l'effondrement. Je sais qu'il y a des collectifs, par exemple, qui le font, qui ont placardé les visages et même les prix que ça représentait, les nuits en Airbnb, si on les développait au mois. Et qu'est-ce que ça faisait en termes de mensualité, et qui font quand même un électrochoc, je pense aussi pour beaucoup de gens, qui comprennent que quand même, on se fout vraiment de leur gueule et qu'on les fait disparaître que pour du fric. Il y a des petits propriétaires qui en ont marre aussi de ce voisinage super déroutant, bruyant, déstructurant aussi pour la vie de quartier et qui passe par exemple des interdictions de mettre en meublé de saison et en Airbnb dans les règlements de copro. Il y a des collectifs militants qui organisent paquets de manifestations, d'affichages, de trucs un peu plus de perturbations et de sabotage aussi, hein, faut le dire, dans la ville, parce qu'ils en peuvent plus et que plein de gens n'arrivent plus à se loger. Puis il y a aussi même des trucs plus institutionnels, les conseils de quartier qui ont fait remonter aussi la question, comme au Panier, où c'est vraiment devenu, comme le dit même le maire adjoint, une piste pour valises à roulettes, dans le plus vieux quartier populaire du centre de Marseille. Et il y a tous les mécanismes institutionnels, dont je parle moins dans le bouquin, mais qui sont censés pouvoir freiner ça. Par exemple, et ça c'est un enjeu massif, c'est ne pas construire du logement social en centre-ville, comme c'est fait depuis des années et des décennies sous la municipalité Gaudin, c'est un frein évident à la mécanique spéculative, parce que quand il y a beaucoup de logement social, bah oui, le privé il peut augmenter ses tarifs, mais le fait qu'il y ait en face beaucoup de logements et les gens, on peut les reloger, etc., en cas de sortie de bail, de rupture de bail, ça s'accélère et ça se multiplie depuis 2 ans, bah ça freine aussi les effets du marché. Ils peuvent voter, ça fait 2 ans qu'elle en parle à la mairie, on attend encore le principe à la rentrée de l'encadrement des loyers, souvent ça arrive un peu tard. Elle peut préempter, ça elle est en train de mettre aussi en place des choses, mais ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, les mécanismes institutionnels, ils peuvent exister, mais il faut une forte volonté, il faut se battre contre la métropole qui a une grosse partie de la responsabilité sur le logement. Donc en plus, ça permet aussi souvent à certains de dire, en fait on peut rien parce que c'est la métropole, parce que si, parce que blabla. Et donc la réalité aussi qui est décrite dans le bouquin, c'est que souvent, en gros, la charge, elle incombe à nouveau, comme en 2018, quand les gens ils ont pris la rue, de reprendre en fait en main aussi leur quartier et de dire, bon là ça suffit en fait. Il y a des gens, ils en font trop. On va aussi les afficher, les visibiliser, cartographier. Ça a été une grosse partie aussi des luttes, c'est-à-dire l'Observatoire de la gentrification qui se réenclenche après les luttes un petit peu en berne quoi, de l'après 2018, en 2021, et qui met en place des cartes où on se rend compte un peu de l'invasion quoi, et que les gens, bah forcément ça fait un électrochoc, ils disent on veut pas d'un quartier en fait que pour des touristes, on veut continuer à vivre et à habiter. Et ça, je pense que c'est une question, habiter ou spéculer, qui marque beaucoup de gens, pas du tout que à Marseille quoi. C'est un livre que j'ai pas voulu du tout construire comme j'avais fait celui d'avant sur Nanterre, hein, du bidonville à la cité, qui est le résultat d'un doctorat de Sciences Po, qui a été largement transformé, mais qui a quand même gardé un style, un fond d'enquête universitaire. Là, l'enquête, elle est personnelle, au sens où ça a été une forme de décompensation pour moi aussi, en tant qu'habitant et militant depuis cette période, d'écrire ce truc. On m'avait demandé, en fait, un chapitre sur le mal-logement à Marseille, et j'étais bien embêté, parce que je fais pas du tout mes recherches là-dessus, et j'ai vraiment vécu que comme habitant et comme militant depuis que j'y suis, depuis 7 ans. Et d'un coup, il y a tout qui est sorti, quoi, toutes ces 5 années de folie, un petit peu, et de lutte, et aussi de déprime, et de trauma. Et moi, en fait, le prologue démarre avec une situation personnelle dans mon immeuble qui est en rénovation permanente depuis 3 ans, qui a connu un arrêté de péril. Et je pense que c'est une situation aussi très banale, mais en même temps très exemplaire de ce que beaucoup de gens dans ce centre encore partagé, populaire, dit immigré, racisé, conservent. C'est un petit peu comme ça que j'ai voulu construire le bouquin, c'est-à-dire aussi avec les collectifs qui ont donné beaucoup de documentation, avec la parole des habitants qui commence à être enfouie derrière toute cette transformation du centre-ville. Et c'est un mélange un petit peu effectivement d'analyse perso, de point de vue des habitants qui ont été expulsés ou qui restent dans ce centre-ville encore en tension, hein, parce que tout n'est pas fini et c'est loin d'être fini, je pense, à Marseille, ce processus. Et puis d'analyse plus critique de toute la Airbnbisation, de la touristification et de la gentrification du centre-ville, et pas que du centre-ville de Marseille, quoi.
Un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, oui, c'est la gentrification, mais pour donner envie de lire ton livre.
Bah, c'est la partie qui est notamment développée dans le chapitre 2, le rapport entre le laisser effondrer de la rue d'Aubagne, c'est mourir et d'un côté, et requalifier, rénover juste au-dessus dans le quartier voisin, le quartier contre-culturel, festif, militant, la plus grande place et le plus grand marché de centre-ville de Marseille, dans le quartier de cette place Jean Jaurès, dite La Plaine. Le point sur effectivement tout ce projet de requalification qui arrivait pile au même moment, hein, c'est quand même ça aussi la schizophrénie de ce moment et qui a créé des luttes forcément très fortes. Vu la brutalité et la violence en fait qui s'est déployée en face, c'est 20 millions pour détruire une place, comme disait la banderole lors de la marche de la colère, et pas une thune pour sauver Noailles. Et c'est un peu l'articulation entre se laisser pourrir et se laisser effondrer de l'insalubrité d'un côté, et puis cette revalorisation, cette gentrification, ce remplacement de population plus lent par des personnes qui viennent d'autres milieux, pas forcément plus argentés, mais avec une montée en gamme, une transformation des espaces publics, des terrasses, une privatisation des espaces énormes, comme on a connu à la Plaine depuis sa réouverture en 2022. Quoi.
Ton approche, elle est anthropologique presque, on va dire, enfin, c'est une enquête de terrain. T'as un lien émotionnel fort. Comment tu fais pour te distancier, quand même garder un aspect chercheur ?
J'ai pas voulu me distancier, c'est pour l'écriture uniquement qu'il a fallu se distancier un tout petit peu pour juste me mettre à distance, prendre le recul de regarder les données que j'avais. Mais en fait, les données ou l'enquête, pour moi, elle n'a pas du tout été, si tu veux, une enquête à distance, au sens où c'est vraiment... même les cartographies, c'est des cartographies militantes. Alors, par contre, effectivement, j'ai été vérifié qu'à des moments, il n'y avait pas eu des oublis, des trucs, que ça correspondait bien à ce que j'avais vu par ailleurs, dans d'autres lectures. Donc, l'observation, même anthropo dont tu parles, tu vois, c'est presque drôle. Ça a été plutôt de participer à certaines promenades urbaines qui étaient faites pour documenter, cartographier, en fait, cette invasion Airbnb. Et c'est particulièrement dans ces moments-là où en fait, tu te balades dans des quartiers où tout le monde pense, avec un peu cette petite aussi gloriole marseillaise qui consiste à dire que certains quartiers vont jamais changer parce que c'est imprenable, parce que c'est trop bordélique, parce que c'est Marseille, et de se rendre compte au fur et à mesure de ces balades que ben, à l'endroit où tu voyais cadenas, les portes blindées anti-squat qui fermaient les lieux mis en péril pendant 3 ans, ben, juste à côté, tu as le boîtier à clé qui ouvre la porte du petit paradis marseillais avec vue sur la mer et chez les précaires juste à côté. Et qu'en fait, il y a des quartiers où ça saute un pas. Et c'est là où il y a cette volonté d'articuler gentrification et touristification et que des fois, ça se recoupe, des fois, ça s'accélère, mais des fois, c'est pas exactement la même chose. Dans des quartiers où en fait, il n'y avait même pas vraiment de réelle gentrification de mon point de vue. Ou en tout cas, des formes un peu ratées ou qui galèrent de remplacement des populations par la longue durée, mais dans lesquelles, par contre, tu mets des personnes qui restent de nuit et elles sont pas très regardantes ou elles vont peut-être obtenir un remboursement de leur nuitée a posteriori, mais elles vont pas trop être regardantes sur le fait que les punaises de lit, par exemple, elles ont déménagé moins vite que les occupants d'avant. Et ça, c'est des vraies réalités qu'on a découvertes sur le terrain. Donc oui, il y a un peu de l'anthropologie militante de fait, quoi. Et une enquête de terrain qui a consisté à aller faire aussi des entretiens, des micro-trottoirs avec certains étudiants en éducation spécialisée, avec qui j'ai fait des ateliers méthodologiques début 2022 et qui m'ont lancé un peu dans ce projet où effectivement ça a redonné un peu une dynamique de recherche et d'enquête, quoi.
Le mot de la fin pour vous, est-ce que vous avez un mot sur la situation plus précisément à Fort-Calquier ?
Bah moi, Fort-Calquier, j'ai souvent entendu parler du fait que c'était les Marseillais qui souvent venaient un peu gentrifier quand ils en ont un peu marre du trop urbain, du trop bordélique ou du trop usant de cette ville un peu folle, mais en même temps aussi agréable à vivre, parce qu'elle est si partagée et si bordélique, justement. Et c'est vrai qu'il y a un personnage qui hante quand même les effondrements à Marseille. Évidemment, il y a celui de Gaudin et de ses décennies d'abandon, mais il y en a un autre qui fait en fait la passerelle entre ces collusions complètement dingues, entre ce 63 qui s'effondre, qui est propriété de la Société d'économie mixte Marseille Habitat, donc le pouvoir politique, public, et puis le 65, copropriété dégradée, privée, comme une immense majorité de ces petits immeubles en centre-ville, et dans lequel on retrouve, comme par hasard, un propriétaire non occupant, n'est autre que Xavier Cachard, conseiller régional Les Républicains, qui lui-même a une triste troisième casquette, qui est celle d'avocat du syndic, donc chargé de faire les travaux dans ce bâtiment qui est... extrêmement dégradé, une cage d'escalier entièrement bombée, des fenêtres et des portes qui ne ferment pas, qui va même être évacuée 10 jours avant l'effondrement, sur demande express d'une des locataires qui flippe, qui n'arrive pas à joindre les bailleurs, qui n'arrive pas à joindre les propriétaires, et qui réussit à faire évacuer par les marins-pompiers, tellement effrayés, qu'ils sortent en fait le bâtiment par la nacelle, depuis l'extérieur, et qu'on retrouve en fait aujourd'hui à la tête de Airbnb certains immeubles de Fort-Calquier. Parce que, bah, en fait, ça lui a causé peut-être quelques problèmes. Il est mis en examen, il passera en procès en novembre prochain avec tous les autres, et notamment les experts Richard Carta, qui ont fait réintégrer le bâtiment juste avant l'effondrement. Voilà, une petite dédicace à Fort-Calquier de ce point de vue.
Pour vous retrouver, vous avez un site internet ?
Plus d'informations, il y a un hashtag surtout qui a été lancé où les gens peuvent donner leurs infos, les partager pour faire face à ce problème. Balance ton Airbnb.